Nous allons continuer notre étude des dons spirituels. Je ne vous fais pas relire pour l'instant 1 Corinthiens 12, on l'a lu plusieurs fois. Aujourd'hui, il faut que je vous parle du discernement des esprits. Alors, qu'est-ce que le discernement des esprits ? Désolé, je rentre directement dans le vif du sujet, mais voilà, c'est un petit peu plus théorique, un peu plus doctrinal. Je sais que c'est un petit peu plus ardu, sur des choses un peu plus costauds, mais il faut que l'on puisse comprendre toute la dimension, toute la richesse qu'il y a dans la personne du Saint-Esprit, dans ses œuvres et dans sa puissance. Et le but de toute cette série de messages, c'est pas seulement de vous le présenter, quoi qu'il faut bien aussi commencer par comprendre ce que le Saint-Esprit est capable de faire, mais aussi vous donner soif et amener en vous ce désir, puisque Paul dit « aspirer après avoir parler, présenter les dons spirituels, il dit aspirer, chercher avec ardeur, chercher avec ferveur les dons spirituels. Le don du discernement des esprits. Ce don n'a strictement rien à voir avec l'intuition. De la même façon que la parole de connaissance n'avait rien à voir avec certains éléments humains. Des fois, il y a des éléments qui nous permettent, à peu de choses près, d'évaluer, d'estimer, puis on se dit bon, je suis pas surpris. Mais ce ne sont pas des paroles de connaissance. Ce sont des révélations ponctuelles du Saint-Esprit sur des situations qu'on ne peut absolument pas connaître. Ici, c'est exactement la même chose. Ça n'a rien à voir avec l'intuition. Il y a des moments, il y a des gens. Ça m'est arrivé dans mon ministère. Ça m'est arrivé en tant que chrétien. Il y a des gens. Je les aime. J'aime tout le monde. Mais il y a des gens, je les sens pas. Ça vous est tous arrivé de dire, oh, celui-là, je le sens pas. Oh, elle, je la sens pas. Et puis, il s'est avéré que oui, effectivement, c'était tordu. Bon, et puis à d'autres moments, on s'est carrément trompé, parce que moi, il y a des gens de qui j'ai pensé, je le sens pas, puis finalement, c'était des gens super. Puis il y a des moments, des gens que je sentais très bien, et quelle déception, oh mon Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'intuition. Ce don est aussi une communication ponctuelle et surnaturelle du Saint-Esprit qui va me permettre d'évaluer ce qui est dans l'invisible. Il va me permettre, je vous ai mis ici, de pénétrer le monde spirituel invisible. Bien sûr, je regarde avec vous beaucoup d'exemples concrets tout à l'heure. Pour l'instant, on est sur la définition générale. Il va me permettre de pénétrer le monde spirituel invisible, de voir au-delà du visible, au-delà de ce que mes yeux humains voient, au-delà de ce que même, excusez-moi, on essaye de me faire avaler, de ce que on essaie de me vendre, de ce qu'on essaie de faire paraître. Ça va me permettre d'identifier ou de démasquer une cause, une origine spirituelle au-delà du visible, et ça se joue dans 3 sphères. J'ai mis ici, il faut bien comprendre qu'il y a 3 sphères spirituelles. Celle de Dieu, celle du diable et celle de l'homme. Nous sommes esprit, âme et corps. Par mon âme, c'est ce que je suis. Mon âme, par mon âme, j'ai conscience de moi-même. J'ai conscience, je suis connecté aux autres par mon âme. J'ai conscience, j'ai une connexion par cette dimension en moi, cette âme, qui me permet d'avoir une relation, une connexion, une conscience des autres. Avec mon corps, je suis connecté au monde physique, visible, matériel. L'oreille, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, toutes ces choses-là me connectent au monde physique, matériel. Mais c'est par mon esprit, parce qu'il y a une dimension spirituelle en chacun d'entre nous, c'est par mon esprit que je suis en contact avec le monde spirituel, bon ou mauvais. Et depuis que vous êtes né de nouveau, votre nouvelle naissance, c'était que le Saint-Esprit ressuscite votre esprit qui était mort, coupé des choses de Dieu, et que le Saint-Esprit ayant ressuscité votre esprit, vous ayant fait naître de nouveau, naître à la vie de Dieu, il vous a connecté avec Dieu par le Saint-Esprit. Et vous avez connaissance, une compréhension des choses spirituelles de Dieu par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Ok ? Nous sommes aussi, oui, nous avons une dimension spirituelle. L'être humain aussi a une dimension spirituelle. Paul, dans 2 Corinthiens 11, je l'ai pas mis ici pour ceux qui notent, j'ai juste mis un texte de l'Ancien Testament, mais pour ceux qui notent, 2 Corinthiens 11, l'apôtre Paul met bien en évidence aussi l'esprit de l'homme, l'esprit de Dieu. Là, je vous ai mis un texte de l'Ancien Testament, Zacharie 12, l'Éternel a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Et on va lire ensemble Matthieu 16 pour bien comprendre tout cela. Et au fur et à mesure qu'on va avancer et qu'on va regarder des exemples ensemble, je pense que ça va nous aider à comprendre notre besoin de discernement. Parce que oui, c'est un don très précieux, il fait souvent défaut à l'Église et nous avons besoin, j'ai besoin de discernement par la grâce de Dieu. On parlera de discernement général et aussi du don de discernement des esprits. Matthieu chapitre 16, on va commencer par là puisqu'on est dans une présentation de ces trois sphères qu'il faut vraiment comprendre. Matthieu chapitre 16, et on pourrait lire à partir du verset, même à partir du verset 16. Ça va vous montrer à quel point on peut spirituellement percevoir de l'excellent et du très mauvais. Notre esprit perçoit des choses excellentes et peut percevoir des choses très mauvaises. Jésus a dit à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Et vous connaissez les réponses qu'il formule de la part du peuple. Puis ensuite, Jésus s'adresse à ses disciples, à eux personnellement, et il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Parce qu'il faut absolument, pour aller plus loin, parce que derrière, il va parler de la croix. S'ils n'ont pas compris que Jésus est Dieu, s'ils n'ont pas compris la vraie nature de Jésus, derrière, ça va être très très compliqué pour eux. Donc, Jésus, ici, il va se passer quelque chose, ici, à un moment stratégique, dans le cursus des disciples. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Verset 16, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Révélation, connexion spirituelle. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, que tu es Céphas, et que sur cette pierre, c'est-à-dire sur cette parole que tu viens de prononcer, Christ du Dieu vivant, sur cette parole que tu viens de prononcer, je vais bâtir mon église sur cette base-là, et même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, c'est très important, à partir de ce moment-là, ils ont très bien compris la nature de Jésus. Ils n'ont pas encore compris la nature de sa mission et de son œuvre. Ça, ça leur échappe. À ce moment-là, ils n'ont pas encore compris le chemin par lequel le Seigneur va devoir passer pour être le Sauveur et les Seigneurs couronnés et glorifiés. Et ils n'ont aucune idée du chemin par lequel eux, ils vont devoir passer pour pouvoir le suivre. Mais dès lors, dès ce moment, il y a un moment stratégique ici dans leur cursus, Jésus commence à faire connaître à ses disciples qu'il faut qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il soit mis à mort, qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, ce qu'il vient de dire était une révélation extraordinaire. Ça fait 30 secondes, à peine plus, j'exagère pas beaucoup. Pierre, ayant pris Jésus à part, se mit à le reprendre et lui dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Toi, sur la croix, comme un malfaiteur, comme un brigand, toi, maltraité, toi qui es le Christ, toi tu es Dieu, toi tu viens de là où tu viens, tu règnes et tu es destiné à régner d'éternité en éternité. Toi, Seigneur, non, certainement pas, c'est pas possible. » Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan !» Oups. Mais moi, je pensais que parce que j'avais eu une super révélation dimanche dernier, du coup, j'étais bon sur toute la ligne tout le temps. Ah non. Ah mais alors, pas du tout, quoi. C'est pas parce que t'en as sorti une excellente la semaine dernière que cette fois-ci, c'est bon, hein. Non, non, pas du tout. « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. » Et ce texte est un texte essentiel, fondamental, pour comprendre les trois sphères spirituelles, esprit, pensée, spirituel. Les trois sphères spirituelles sont mises ici en évidence par Jésus dans le même verset. Satan, tes pensées, d'accord ? On a la pensée du diable, ne sont pas celles de Dieu, mais celle des hommes et les trois sphères spirituelles, parce que c'est ça notre vrai combat. Quand on dit, frères et sœurs, nous sommes dans un combat spirituel. Oui, au travers de la prière, de l'intercession, etc. Oui, bien sûr. Mais un combat spirituel, concrètement, ben le combat spirituel, vous le vivez tous les jours sans vous en rendre compte, parce que le champ de bataille, le combat spirituel est un combat de pensée. Le combat spirituel est un combat de pensée. Pensée contre pensée. Et des pensées, vous savez que vous en avez plein. Vous n'arrivez pas à rester 5 minutes sans penser à rien. Vous en avez plein. Vous en avez des terribles, des pensées. Vous en avez des super, puis vous en avez des catastrophiques. Et c'est pas parce que je pense quelque chose que forcément c'est bon. C'est pas parce que je pense quelque chose depuis très longtemps que c'est bon. C'est pas parce que je pense comme le frère untel que c'est bon. C'est pas parce que je pense comme le frère untel qui pense comme la sœur untel qui pense comme le frère untel comme la sœur untel depuis 30 ans que c'est bon. Oups. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Ok. Alors, bien sûr, je précise, parce que autant il y a des gens qui voient le diable nulle part, autant il y en a qui le voient partout. Évidemment, Pierre ici n'est pas possédé. Il n'est même pas sous une influence ténébreuse particulière. Non, il n'y a rien de tout ça. Il y a simplement, il faut comprendre, une connexion spirituelle. Ok, vous avez un esprit, vous êtes connecté avec le monde spirituel. Et comme j'aime souvent le dire, alors que c'est vrai, le diable, il est lié, il est vaincu, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui sont en Jésus-Christ. Le seul pouvoir qu'on peut laisser au diable, c'est celui qu'on lui laisse quand on écoute ses mensonges. C'est tout. Parce que sinon, il n'a absolument aucun pouvoir. La Bible est claire. Il est lié, mais il n'est pas muselé. Il est capable de parler. Il est capable de souffler des pensées. Et ces pensées-là, ben je les capte aussi. J'ai un récepteur à l'intérieur. Et je les capte. Et il faut que je fasse le tri dans mes pensées. Il va déjà falloir que je passe par ce qu'on appelle le discernement spirituel général qui est propre à tout enfant de Dieu. Ce qu'il faut vraiment comprendre aussi, frères et sœurs, pour réaliser à quel point on a besoin de discernement, il faut bien comprendre la nature de notre ennemi. Et il faut bien comprendre la faiblesse et la vulnérabilité de notre nature charnelle. Il faut vraiment être au clair sur qui on est et sur ce qu'on n'est pas. Bien comprendre la nature de notre ennemi. Bien sûr, vous avez compris, on n'est pas là pour en avoir peur. Mais il faut bien comprendre sa nature, qui il est, son identité et ses objectifs. Le diable a plusieurs moyens pour essayer de contrecarrer les plans de Dieu, mais de toute façon, Dieu étant tout puissant et omniscient et omnipotent, il a toujours dit et prouvé que de toute façon, les plans de l'ennemi se retourneraient contre lui. Jésus dit, le diable fait une œuvre qui le trompe. Et Dieu se sert de lui pour sa pensée, se sert pour instaurer et faire ses œuvres. Et le diable, même alors qu'il ne le veut pas, il y a des moments, ben de toute façon, il contribue quand même à faire progresser l'évangile et à faire l'œuvre de Dieu. De toute façon, Jésus a dit, le diable fait une œuvre qui le trompe. Il a plusieurs façons d'agir, mais il faut savoir que parmi ses armes de prédilection, il y a vraiment, j'ai mis ici, cet art de la dissimulation. Le diable, c'est le champion de l'imitation. Et des imitations qui sont super, super, super bien faites. Parce que ça fait des millénaires qu'il est le champion de la dissimulation toute catégorie. Le champion du déguisement. Il se déguise. Ah, dommage, là, j'aurais dû mettre le texte. Pour ceux qui notent, je vous ai cité 2 Corinthiens 11. Ce texte va vous servir aussi parce que il est dit justement dans ce texte qu'il se déguise en ange de lumière. Et il n'est pas étrange, dit Paul, puisque le diable se déguise en ange de lumière, il n'est pas étrange non plus que ses serviteurs, eux aussi, se déguisent, évidemment. Alors, il se fait passer, le loup se fait passer pour une brebis, le loup se déguise en agneau, et il sait très bien, c'est ce qu'il a fait, hein, il a soufflé une petite pensée bien sentimentaliste à Pierre. C'est jamais méchant, hein, mais vous savez, frères et sœurs, il y a des moments où on est beaucoup plus affectif et sentimentaliste que amour. Et le sentiment, ça rend aveugle. Les hommes disent « Oh, l'amour est aveugle !» C'est faux, l'amour de Dieu est carrément pas aveugle. Il sait très bien ce qui va pas chez toi et puis ce qu'il faut changer. Il n'est pas aveugle du tout. Le sentimentalisme est aveugle. L'amour dit la vérité, le sentiment, le bon sentiment ne dit pas la vérité. Et comment est-ce que le diable a réussi à souffler une pensée qui aurait pu être catastrophique si Jésus l'avait écouté? Simplement en passant par cette voie sentimentaliste. Oh, mon pauvre petit. Oh, mais comme je l'aime. Oh, mais non, mais c'est pas possible. Ça peut pas t'arriver. Oh! Tes enfants, ils t'ont encore fait ça cette semaine? Oh là là, ma pauvre, oh ben c'est vraiment pas bien. Oh mais ça, c'est pas normal, ça devrait pas t'arriver. Je suis d'accord qu'il faut avoir de la compassion. Mais souvent, frères et sœurs, on tombe dans un ton, excusez-moi, mielleux, alors que combien de fois le Seigneur a dit « Vous allez avoir des tribulations sur la terre. Vous allez avoir des tribulations. On m'a fait ces choses à moi qui suis le bois tendre. » Ne vous étonnez pas qu'on vous le fasse à vous qui êtes un bois sec. Ah, mon pauvre petit, c'est pas normal, etc. Ah, puis Jésus a quand même dit, tu sais, oh ben, tu seras sauvé toi et ta famille et tout. C'est faux! Pardon, c'est faux! Jésus a jamais dit ça. Paul a dit au geôlier de Philippe, tu seras sauvé toi et ta famille, parce qu'il avait distingué, il avait discerné qu'il allait se passer quelque chose dans cette famille et que ce serait la première famille et la naissance de l'église de Philippe. Ok? Et nous, on prend des textes hors contexte parce que nos sentiments les arrangent, puis on dit, ah, oh, mais le Seigneur a dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je m'excuse, c'est absolument pas vrai. Par contre, ce qui est vrai, c'est que Jésus a dit, de deux qui sont dans un lit, il y en a un qui sera pris, l'autre laissé. Jésus a dit, je suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. Je suis venu semer la division entre le père et le fils, entre la mère et sa belle-fille, etc., etc. Alors on prie de tous nos cœurs pour nos familles, etc., bien sûr, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est biblique. Mais excusez-moi, frères et sœurs, il y a des pensées sentimentalistes qui tournent dans les réflexions des uns et des autres et qui nous éloignent. Et quand il se passe quelque chose qui est contre cette pensée sentimentaliste, on est effondré, on dit « Ah, mais je comprends plus rien !» Ben, tu comprends pas parce que ça fait des années que tu dis des choses que la Bible ne dit pas. Je suis désolé, hein. Je suis dur, hein. Le champion du déguisement, l'art de la dissimulation, le spécialiste du texte biblique mal interprété. Le diable, c'est le spécialiste du texte biblique, là, mal interprété. Ce matin, on en parlait avec Vincent, on parlait du psaume 91. Dans le psaume 91, c'est quand même hyper balèze. Le diable, lorsqu'il a tenté Jésus dans le désert, il a pris une parole du psaume 91 et il l'a donnée à Jésus pour le tenter. Il fallait le faire quand même. Le spécialiste du texte biblique mal interprété. Le champion du déguisement, de la dissimulation. Ça, c'est vraiment son arme favorite, se faire passer pour ce qu'il n'est pas, se faire passer pour un autre, passer par des belles paroles doucereuses, une apparence pieuse, un discours évangélique, un beau langage biblique, un vocabulaire très spirituel, mais qui de toute façon détourne des brebis de la vérité. Et Jésus a mis tout cela en œuvre. Jean chapitre 8, pour ceux qui notent, il est menteur et le père du mensonge. Quand il ment, il parle de son propre fond, il ne peut pas faire autrement que de mentir. Et même s'il prend un texte biblique, vu qu'il a sorti de son contexte, c'est un mensonge. Il ne vient, dit Jésus en Jean 10, que pour dérober, que pour égorger, que pour détruire. L'une de ses meilleures armes, l'apôtre Paul le montre dans ses épîtres, c'est la séduction. Et son plus grand subterfuge, je vais juste vous montrer à quel point le diable est spécialiste en séduction, à quel point il est puissant en séduction. Son plus grand tour de passe-passe, l'un de ses plus grands subterfuges reste à venir, ça s'appelle l'Antichrist. C'est celui qui se fera passer pour le Messie, c'est celui qui se fera passer pour le Christ et qui pour un temps prendra la place du Christ. Il va réussir à susciter, même s'il y a des faux Christ, Jésus le dit, un jour vient, il suscitera un faux Messie, l'Antichrist, qui séduira les nations, qui séduira Israël, et excusez-moi, qui va même réussir à séduire des chrétiens mal affermis et sentimentalistes. Il va réussir à séduire des chrétiens. Ce que j'appelle ce clou du spectacle, ce grand tour de passe-passe, cette mascarade, ne durera pas longtemps. Ça durera 7 ans, selon ce que dit l'Écriture. Une fois que, je vous fais un petit peu d'eschatologie, une fois que La trompette de Dieu retentira, les morts en Christ, selon ce que dit Paul dans 1 Thessaloniciens 4, les morts en Christ ressusciteront premièrement, les vivants seront transformés, nous serons tous ensemble enlevés. Mon âme soupire et dit, viens Jésus, viens. Viens Seigneur, viens. L'esprit et l'épouse crient, viens Seigneur, viens. Et nous serons tous ensemble avec le Seigneur. Et là démarrera une période de 7 années. Où nous serons dans le ciel, et pendant ce temps, dans le ciel, il y aura les noces de l'agneau. Et en bas, c'est ce qu'on appelle la grande tribulation pendant 7 années. Et pendant ces 7 années, le règne de l'Antichrist se divise en 2 parties. Les 3 premières années, 3 ans et demi, les 3 ans et demi, c'est vraiment le moment où il a séduit Israël, où tout se passe bien, tout se passe pour le mieux. Il a son masque, il a vraiment son masque de Messie. Il a une puissance économique, il a une puissance militaire, il a une puissance spirituelle. Il va unifier toutes les religions de ce monde pour qu'elles deviennent la grande prostituée qu'on voit qui est monté sur le grand dragon dans l'Apocalypse. Il va unifier toutes les religions de ce monde, et avec sa puissance religieuse, militaire, économique, il semble même, d'après certains textes de l'Apocalypse, qu'il sera grièvement blessé et qu'il s'en sortira. Il y aura quelque chose qui fera que les gens croiront encore plus en lui. Il y a tout ça, effectivement. Et puis, à l'issue des 3 ans et demi, il va enlever son masque et il va, à ce moment-là, commencer à opprimer Israël et imposer son règne tyrannique sur la terre pendant 3 ans et demi. Jusqu'au moment où, à l'issue de ces 3 ans et demi, alors que toutes les nations se seront liguées contre Israël, là, Israël sera obligé, c'est écrit, d'invoquer celui qu'ils ont percé. Et à ce moment-là, le Seigneur Jésus reviendra en gloire. Merci Seigneur. C'est pas dans ma tête, c'est dans notre cœur, frères et sœurs, que ça se passe. Jésus reviendra en gloire, et c'est écrit, il reviendra avec tous ses saints. Nous viendrons avec lui sur la terre, et puis là, à ce moment-là, Jésus posera son pied sur la montagne des Oliviers, parce que l'ange avait dit, celui que vous avez vu partir, il reviendra de la même façon. Avec cette différence qu'il y aura des millions de chrétiens avec lui qui descendront sur la terre. Merci Jésus, merci Seigneur. Et puis le Seigneur va instaurer son règne millénaire, le millénium. Il va instaurer ses 1000 ans de règne. Pendant ce règne, toutes les nations pourront goûter à ce règne bienfaisant, de joie, de paix, d'amour, d'harmonie, d'équilibre, de justice, d'amour, etc. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi ça va me prouver à quel point le diable est capable de séduire? Parce qu'à l'issue des 1000 ans, 1000 ans où la terre et les nations ont goûté au règne de Jésus, le diable sera relâché juste pour un temps. Et il nous est dit que pendant ce temps, alors que pendant 1000 ans les nations ont goûté au règne du Christ, il arrivera encore à les séduire. Frères et sœurs, il faut comprendre la nature de notre ennemi. Je n'ai absolument pas peur du diable ni d'aucun démon. Par contre, je sais qui ils sont. Je dois connaître mon ennemi. Et Jésus a tout révélé à son sujet. Tout ça pour vous montrer à quel point il est subtil, il est pernicieux et efficace dans sa capacité à séduire. Et puis vous montrer, pardonnez-moi, à quel point, et c'est là, frères et sœurs, que bien souvent, pardon, il y a des chrétiens qui vivent au pays de Bravo Oui Oui, dans le ciel avec des éléphants bleus et des nuages roses. Je suis désolé, il faut avoir conscience aussi de notre nature charnelle. Notre nature charnelle, elle est crédule, soit elle est super incrédule, c'est pas bon, ou alors, l'excès inverse, quand on sort de la foi, elle devient crédule. L'apôtre dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte. C'est pas parce qu'un gars ouvre une Bible et qu'il parle de la part de Dieu que forcément c'est bon. N'ajoutez pas foi à tout esprit. La nature charnelle est crédule. Elle est aveugle, elle est faible, elle est vulnérable. Et Pierre, il fallait qu'il comprenne, comme beaucoup de chrétiens, Pierre avait compris la vraie nature de Jésus. Mais il n'avait pas franchement compris encore celle de son ennemi et la sienne. Et c'est par un échec cuisant, un échec extrêmement douloureux, qu'il va apprendre la nature de son ennemi et sa propre nature. Ok, vous êtes toujours avec moi? Et cette nature charnelle, il faut en avoir conscience. C'est ma faiblesse, c'est ma faille. Elle est le canal parfait pour l'ennemi. C'est son terrain de jeu. C'est comme ça que le diable a pu souffler à Pierre une simple parole qui était la plus absurde des bêtises. C'était totalement opposé au plan de Dieu puisque Jésus est venu pour la croix. Donc elle est le canal parfait, le terrain de jeu idéal du diable. nos pensées, je l'ai dit tout à l'heure, sont le champ de bataille du diable. Et quand vous faites attention dans le texte, Jésus relie les pensées de l'ennemi avec celles des hommes. Il fait quasiment un amalgame. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. N'enlevez pas celles de Dieu. Satan, tes pensées sont celles des hommes. C'est la même chose. C'est le canal, ça passe par là. Ok ? Si nous comprenons toutes ces choses, nous comprenons mieux certainement notre besoin de discernement. Et j'en arrive à la première strate, à la première couche. De la même façon qu'avec la sagesse, il y avait différents étages jusqu'à arriver à la parole de sagesse. Là, il faut simplement comprendre qu'en tant que chrétien, nous sommes déjà appelés, avant d'avoir ce don de discernement des esprits, d'avoir du discernement spirituel, général. Nous sommes appelés à avoir ce genre de discernement. Et ce discernement, il vient comment ? Eh bien, il vient simplement grâce à notre connaissance de cœur de la parole et à notre communion avec le Saint-Esprit. Et plus je développe ma connaissance de cœur, pas de tête, ma connaissance de cœur de la parole et ma communion avec le Saint-Esprit, plus effectivement il y a des choses, des gens, ah, je vais pas trop les sentir et ce sera à juste titre, parce que oui, effectivement, le Seigneur me permet d'avoir de plus en plus de discernement. Mais ça, c'est le discernement général, spirituel. Ça, c'est le discernement spirituel général pour tous. Dans ce discernement spirituel général, on met aussi les faux docteurs. Jésus dit bien, Matthieu 7, 15, « Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Et là, je vais pas avoir un discernement des esprits. Jésus a dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Si l'arbre est pas bon, il portera pas de bons fruits. Si les fruits sont pas bons, c'est que c'est pas un bon arbre. Ben, c'est bouclé, c'est fini, c'est réglé. Allez, on coupe à la poubelle. Exactement, t'as raison. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais ce sont des loups ravisseurs. Comment on va faire? Ben, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et puis, on reconnaît aussi un faux docteur à son enseignement déséquilibré, la façon dont on peut sortir des textes de leur contexte pour faire toutes sortes de doctrines qui ne sont pas bibliques. Tout ça, voilà. Tout ça, c'est du discernement spirituel général. Mais il y a, frères et sœurs, il faut comprendre qu'il y aura toujours des situations. C'est comme avec la sagesse. Il y aura toujours des situations où ma sagesse spirituelle générale ne suffira pas. Il y aura toujours des situations où la supercherie sera telle, l'imitation sera tellement bien faite, la supercherie sera tellement grande, la limitation sera tellement bien faite, qu'il faudra une révélation surnaturelle du Saint-Esprit pour discerner ce qui se passe derrière des gens qui ont un discours super bien emballé. Il n'y en a pas au milieu de nous ce matin, rassurez-vous. Il ne faut pas avoir peur, il faut être conscient. D'accord ? Alors maintenant, quelques exemples de discernement des esprits. On ne va pas tout lire, je vous en ai mis quelques-uns, anciens, et Nouveau Testament. Le premier exemple, c'est ici, je vous l'ai mis sous les yeux, premier livre de Rois, chapitre 22, 19 à 23, pour ceux qui notent. C'est le prophète Michée qui va s'adresser au roi Akab. Le roi Akab, on le sait, c'est un mauvais roi, c'est un roi inique, il refuse de se détourner de ses mauvaises voies. Et puis, Akab, il a cette fâcheuse tendance... bien plus qu'une tendance. Akab, il aime entendre des choses agréables. Il a la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et pour être sûr qu'on va toujours lui dire des choses agréables, eh bien, il a laissé le prophète Michée très loin de lui. Il en a marre parce qu'il dit toujours que Michée lui prophétise rien de bon. Donc il dit, puisqu'il me dit pas ce que j'ai envie d'entendre, ça doit pas être vrai. Donc lui, il dégage, je le mets de côté. Et il s'est suscité 400 prophètes. Je mets des grosses guillemets, hein, c'est des faux prophètes. Il s'est suscité 400 faux prophètes qui sont là chargés de lui dire « Ah ben écoute, roi, voilà. » Enfin, ils lui disent exactement ce qu'il a envie d'entendre et il est content. Et puis un jour, il doit partir en guerre contre le roi de Syrie. Il veut partir en guerre contre le roi de Syrie. Il appelle Josaphat, le roi de Juda. Ils sont tous les deux sur leur trône. Et puis le roi Akab lui dit « T'inquiète pas, je vais faire comparaître mes prophètes. Ils vont consulter l'Éternel, ils vont nous dire si on peut y aller ou pas. » Et il y a 400 prophètes qui passent, ça a dû être long cette histoire, et puis tous, oui, monte, tu vas être vainqueur, etc., etc. Premier stade, le discernement spirituel général. Le roi Josaphat dit à Akab, je paraphrase, c'est quand même bizarre que sur 400, ils aient tous dit exactement la même chose, hein. Ça sent le complot. Est-ce qu'il n'y a pas un seul homme, dans ton territoire? Est-ce qu'il n'y a même plus un seul homme en Israël qui soit capable de dire la parole de l'Éternel? Il y a un truc qui va pas dans ton histoire, Akab, qu'est-ce que tu nous joues? Et Akab, il dit, bah ouais, ici, il y en a un 401e, c'est Miché. Moi, alors lui, qu'est-ce qui me saoule? Il me dit pas ce que j'ai envie d'entendre. Fais-le venir. Miché vient, il va lui révéler, il va discerner l'esprit de mensonge que Dieu a permis au travers de ses faux prophètes pour mettre un terme à son règne. C'est-à-dire que Miché a discerné l'origine spirituelle, la cause spirituelle, ce qui était caché. C'était pas un simple mensonge de la part de ses faux prophètes. Miché a discerné, le Seigneur lui a révélé ce qui s'était passé dans le ciel, et il lui a révélé qu'il y avait un esprit de mensonge qui était en train d'animer ses faux prophètes. Bien sûr, le roi Akab étant tellement orgueilleux, il n'a rien écouté, et il est mort sur le champ de bataille. Vous relirez la suite de l'histoire. Un petit peu plus loin, allez, celle-là, vous l'ouvrez avec moi, une lecture très courte, un seul verset. Luc, chapitre 11, verset 14. Luc, chapitre 11, verset 14. Juste le verset 14. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. Amen. Vous voyez, face à cet homme qui était muet, Jésus n'a pas prié, il lui a pas non plus imposé les mains. Au passage, pour ceux à qui ça arrive d'imposer les mains, j'ai rien contre, l'apôtre Paul dit à Timothée, n'impose jamais les mains avec précipitation. Je répète, n'imposez jamais les mains avec précipitation. Il vaut mieux avoir une bonne dose de discernement d'abord. Je ferme la parenthèse. Jésus ici nous montre un exemple de don de discernement. Il a discerné que c'est la présence d'un esprit mauvais, parce que oui, ils ont ce genre de capacité. C'est cet esprit qui était la cause de cette infirmité. Il a chassé le démon, et comme le démon était plus là, et ben le muet s'est mis à parler. Alors, bien sûr, c'est pas toujours le cas, hein. D'accord? Il n'y a pas un démon derrière chaque maladie. Faut être équilibré, d'accord? Il y a des problèmes, il y a des maladies qui sont simplement dues à des dérèglements physiques. Point barre. Des maladies qui sont dues parfois à des causes psychosomatiques. On s'en est rendu malade, tellement à l'intérieur on est inquiet. Il y a différentes causes, ok, à la maladie. Mais c'est pas toujours un démon. Mais ici, c'était le cas et il fallait vraiment, bien plus qu'un discernement spirituel général pour la vie chrétienne de tous les jours, il fallait absolument discerner que c'était un esprit malin qui tenait cet homme muet. Et de toute façon, il n'y avait pas de guérison possible. Il n'y avait pas de guérison possible tant que l'esprit n'était pas dévoilé. Je vous fais pas lire un petit peu plus loin, Luc chapitre 13. Vous connaissez ce récit. Il y avait une femme qui était courbée et on nous dit le texte que cette femme était possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Et quand Jésus s'adresse à elle, discernement des esprits, Jésus lui dit pas, sois guérie de ton mal. Jésus lui dit, sois délivré. Vous relirez, je vous ai mis la référence. Jésus dit bien, sois délivré de ton infirmité. Parce que dans ce cas aussi, l'infirmité, elle n'était pas due à un dysfonctionnement naturel du corps qui vieillit, qui dégénère, qui ce que vous voulez. Elle n'était pas due à un dysfonctionnement physique, mais à la puissance d'un mauvais esprit. Frères et sœurs, il y a peut-être des moments, c'est pas tout le temps, mais il y a peut-être parfois des échecs en termes de guérison divine qui s'expliquent par le fait qu'on n'a pas vu ce qu'il y avait derrière. On a prié, on a imposé les mains, on a persévéré, on a. S'il y avait une cause, une origine spirituelle démoniaque derrière, vous pouvez prier tout ce que vous voulez, il ne sera jamais guéri, hein. Il faut le discernement des esprits. Il y a certains, j'ai bien dit certains, des échecs en matière de guérison divine qui s'explique simplement par un manque de discernement des esprits. En tout cas, vous en avez déjà deux exemples concrets à deux chapitres d'intervalle. Acte 5, verset 3, je vous fais pas relire, on l'a lu la semaine dernière. Ananias, l'apôtre Pierre a discerné que c'était pas un simple mensonge, mais qu'il y avait une origine diabolique. C'est Satan qui a rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit. On peut lire par contre, allez, en acte, pour terminer, acte 13. Acte 13, verset 6, Paul et Barnabas sont envoyés en mission par l'église d'Antioche et ils sont à Chypre. Acte 13, verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus. Bar, ça signifie dans l'original, fils de, voilà, le fils de Jésus. Quand vous lisez Bartimée, c'est le fils de Timée. Ici, Bar-Jésus, fils de Jésus, un faux prophète juif, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, un homme intelligent. Intelligent, il faut le comprendre ici au sens qu'il cherchait Dieu. Il s'intéressait vraiment, il voulait vraiment arriver à la foi, cet homme. Ce dernier, le proconsul, fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. C'est pas toujours le cas. Mais vous avez parfois des gens, vous pouvez leur prêcher la parole et leur en parler autant que vous voulez. C'est pas qu'ils ne veulent pas croire, c'est qu'il y a un esprit derrière qui fait une œuvre de destruction. Et c'est exactement ce que Paul a discerné ici. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de corrompre les voies droites du Seigneur ? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras plus le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, seulement à ce moment-là, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, cru. Seulement à ce moment-là, il est parvenu à la foi. Il fallait que cet esprit d'opposition dégage. Étant frappé de la doctrine du Seigneur, amen. L'identité, ici, elle est bien définie. Fils du diable, plein de ruses et de fraudes, elle est dévoilée. Son but aussi, il était là pour faire opposition, pour détourner de la foi, pour pervertir la voie de Dieu. Sa super chérie était dévoilée. Et pourtant, ça devait être un homme qui devait être super bien emballé, parce que même son nom Elimas, dans l'original, Elimas, ça signifie homme sage. Même le nom était bien emballé, tout était super classe dans l'histoire, et il fallait seulement et uniquement un don de discernement des esprits pour que l'évangile puisse pénétrer dans le cœur de cet homme. Il n'y avait pas de progression possible, je le dis en d'autres termes, il n'y avait pas de progression possible pour ce proconsul tant qu'Elimas n'avait pas été démasqué. Et vous savez que ça existe encore. Des gens qui corrompent les voies de Dieu avec des discours bien emballés, des paroles pieuses. Oui, bien sûr, il y en a. C'est aussi ce que le diable a voulu faire avec Jésus. Il a voulu le détourner du chemin auquel il était destiné. C'était un moment stratégique, effectivement, ici, dans la vie de cet homme. Un dernier exemple. Allez, on était dans les actes. Vous venez avec moi ? On va jusqu'à acte 16, parce que ça aussi c'est un excellent exemple qui se situe dans un moment stratégique. Et souvent, c'est dans des moments comme ça, des moments stratégiques, des temps de réveil, des moments où l'évangile doit pénétrer, aller plus loin, que ce don va être nécessaire pour empêcher l'ennemi de faire opposition. Acte 16, verset 16. Encore un moment stratégique, parce que dans le contexte, c'est l'entrée de l'évangile en Europe, d'accord ? C'est un très, très grand moment. Nous, on lit ça comme ça sur quelques lignes. C'est un très grand moment de l'histoire de l'Église. C'est l'entrée de l'évangile en Europe. Il y a quand même un sacré enjeu. Acte 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, c'est-à-dire un esprit de divination, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, et elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fut cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, il devait avoir une sacrée patience quand même, Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, il n'a pas parlé à la femme, il a parlé à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit alors même. » Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul, de Silas, etc. Et ensuite, il y a tout ce récit où ils sont en prison. ils vont louer Dieu, ils vont chanter, prier, chanter les louanges de Dieu. Et puis là, il va y avoir ces fondements ébranlés, les portes vont s'ouvrir. Et c'est là qu'il va y avoir la première conversion, celle du geôlier de Philippe, à qui Paul dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et c'est la naissance de l'église de Philippe. C'est la première église en Europe. Ici, vous voyez, frères et sœurs, il y a aussi un moment stratégique. Il y avait vraiment un enjeu. Et c'était tellement bien emballé. Peut-être que nous, à la place de Paul et Silas, je sais pas, hein, peut-être qu'on aurait dit « Oh, merci Seigneur, bah, décidément, on est bien accueillis. Hein. » Ah, les gens ici, alors à la mairie ici, ah, ils nous ouvrent grand les portes. Ah bah c'est bien, on est bien accueillis. Ah, puis il y a des gens qui, ah, ils nous font de la pub. Vous vous rendez compte, c'est chouette. Ces inconvertis nous font de la pub même. Mais c'est super. Eh ben vas-y, allez, continuez. Merci madame. Bah du coup, par contre, criez pas très fort quand même parce que ça commence à me fatiguer. Mais allez le dire, dites-le à qui vous voulez. Dites-leur qu'on est là. Dites-leur qu'on est à tel endroit et on va faire des réunions. Puis on va imposer les mains, on balade. Allez leur dire, etc. Elle disait des choses vraies. Ce n'est pas, alors je sais après vous allez vous méfier de tout le monde, n'en faut pas non plus. Il faut la révélation ponctuelle et miraculeuse du Saint-Esprit. Cette femme disait des choses vraies, frères et sœurs, ne soyons pas crédules, ce n'est pas parce que des gens disent des choses vraies que forcément ils ou elles sont dans la vérité. La supercherie est quand même très très bien faite, c'est super bien emballé. Alors, son intention exacte, elle n'est pas explicite ici, mais on sait que le mauvais esprit, certainement, il a dû chercher à les amadouer, à gagner leur confiance, pour les détourner de leur mission, certainement, puisque bon, l'enjeu est considérable. Et puis, en les affichant de la sorte, tout simplement, je pense que l'esprit a cherché à faire connaître, à ameuter. En fait, c'était ça, c'était pour ameuter, c'était pour leur couper l'herbe sous le pied. Et en les affichant de la sorte, je pense qu'elle voulait attirer de l'opposition sur eux et leur susciter des embûches, des ennemis, etc., qu'auraient pu les arrêter, etc., etc. Et il fallait absolument que ça cesse pour que l'œuvre de Dieu puisse progresser. En résumé, le don de discernement des esprits, cette communication miraculeuse, surnaturelle, ponctuelle du Saint-Esprit qui me permet de voir l'invisible, de voir derrière les apparences, l'origine d'une manifestation, la cause spirituelle d'une manifestation, je vous ai mis ici, est un don très précieux, nécessaire, j'aurais pu mettre indispensable même, qui permet, voilà ce qu'on ressort des différents textes qu'on a vus, de préserver l'Église d'intrusions pernicieuses. De protéger des brebis mal affermies. Et parce qu'on est des brebis, hein, faut pas l'oublier. D'empêcher l'ennemi de détourner des hommes ou des femmes de la foi et du salut. Ce don permet aussi d'empêcher l'ennemi de nous détourner du chemin par lequel nous devons passer, de la voie que Dieu nous a tracée. Et puis aussi, j'ai mis, voilà, à cause de Luc 11, de Luc 13, ce don est précieux, il va nous permettre de remporter certaines victoires en termes de, j'ai mis des grosses guillemets, guérison divine, puisque c'est pas un dysfonctionnement corporel, c'est vraiment une origine spirituelle, mais ça nous permettrait aussi, plus souvent, j'en suis convaincu, de remporter certaines victoires et de voir plus de personnes délivrées et guéries. Amen. Voilà un petit peu pour vous brosser le tableau de façon générale sur le discernement des esprits.